bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bienvenue à vous tous dans l'Amérique et vous, Eric Manilakiza en votre compagnie, Lionel de Luna de la Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous revenons sur l'acquittement de l'ex-président Donald Trump au Sénat américain et nous parlons du projet de loi de l'administration Biden sur l'immigration. La discussion commence dans un instant. Nous sommes dans l'Amérique et vous, nous recevons l'analyste politique René Lec. Bonsoir René.
Bonsoir Eric.
Voilà, vous avez suivi ce procès de Donald Trump au Sénat. À la fin, il a été acquitté.
Il est encore le leader du parti républicain et cela a fait que bon, les sénateurs républicains ont préféré faire un choix partisan, hyper partisan, qui à mon avis va leur coûter très 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 cher à court terme, à moyen terme et définitivement à long terme par rapport à l'histoire. D'autant plus que, comme vous le savez Eric, l'opinion publique était relativement clair sur cette question et souhaitait qu'il soit condamné. Et ça n'a pas été le cas.
Est-ce que vous pensez que ça a été de la peine perdue pour les démocrates qui ont poussé jusqu'au bout?
Non, je ne pense pas. À mon avis, il y avait, je l'ai beaucoup dit, y compris sur votre antenne, Eric, qu'il y avait à mon avis 4 audiences pour les démocrates, ce qu'on appelait les « house managers ». La première audience, bien entendu, c'était les 100 sénateurs, parce que c'était eux les membres du jury. Mais de ces 4 de ces 100 sénateurs, principalement les 50 républicains, parce que c'était évident que les 50 démocrates allaient voter dans le sens de la condamnation. Donc ça c'était la première audience, c'était les sénateurs. Deuxième audience, c'était l'opinion publique américaine. Et de ce point de vue-là, je crois qu'ils ont fait un travail phénoménal et que de ce point de vue, ça a eu un impact énorme. Ça c'est la deuxième audience. La troisième audience, c'est l'histoire avec un grand H. L'histoire dans 200 ans, c'est quelque chose dont on parlera encore. Donald Trump a été impeached 2 fois, il a été acquitté certes 2 fois, mais cette deuxième fois-là, il a été le président qui a le vote contre lui a été majoritaire d'abord et le plus bipartisan dans l'histoire des États-Unis. Donc ça, l'histoire va le retenir. La quatrième audience, c'est Merrick Garland. Alors qui est Merrick Garland? C'est l'attorney general, le procureur de la République,
le ministre de la justice.
Procureur, voilà, le ministre de la justice nominé par Joe Biden et qui va prendre fonction sous peu. Eh ben, c'est un juge très respecté, il est non-partisan, mais ce procès-là met une pression énorme sur le département de la justice quand il arrivera à sa tête pour ouvrir une enquête contre Donald Trump dans cette affaire. Et vous le voyez déjà, il y a déjà une plainte qui a été déposée, un procès qui va s'ouvrir, qui a été déclaré il y a 2-3 jours. Donc, il va y avoir une série comme ça de procès contre Donald Trump sur cette question. Donc, il y avait 4 audiences et je crois que si au niveau de la première audience, donc les sénateurs républicains, ça n'a pas très bien marché, de toute évidence, des informations que nous avons pour l'instant, les 3 autres audiences ont été plutôt sensibles aux arguments des démocrates. Donc de ce point de vue, je pense que ça a été utile. De leur point de vue à eux, bien entendu. Hein.
Les États-Unis sont fracturés aujourd'hui. On parle de cette question de terrorisme domestique. Comment vous voyez la démocratie américaine dans le futur?
Écoutez, c'est une question qui interpelle beaucoup de monde, notamment à l'échelle internationale. Votre audience est essentiellement une audience internationale, je comprends cela. Donc je sais que c'est une question qui se pose un peu partout dans les 4 coins du monde. Écoutez, moi je pense qu'il y a 2 lectures. on peut se dire, ah, mais c'est incroyable qu'un pays aussi sophistiqué d'un point de vue institutionnel que les États-Unis, des institutions démocratiques fortes depuis plus de 200 ans, puisse se retrouver dans une telle situation. C'est vrai, je peux comprendre ça. Pendant 4 ans, ça a été des assauts répétés contre toutes les institutions, le système judiciaire, les médias, le système politique, le système étatique, le système militaire. Donc, à tous les niveaux, on se demande, mais comment quelque chose comme ça est-il possible? Mais en même temps, les institutions ont tenu. L'Amérique est debout. L'Amérique se tient bien droit dans ses bottes. C'est révélateur de la force des institutions américaines. Donc, on peut s'inquiéter de ce qui s'est passé, mais en même temps, au résultat, les institutions sont fortes. Alors, après les élections et l'investiture de Biden, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, ouais, mais attends, les États-Unis sont en train de devenir une sorte de république bananière. Et je leur disais non. Malgré tous les assauts contre le système démocratique, je leur disais, je vous garantis, le 20 janvier, à midi, Joe Biden sera investi président de la République aux États-Unis. Donc, si on était dans une république bananière, je n'aurais pas été aussi affirmatif, je n'aurais pas pu être aussi affirmatif. Mais ceci dit, je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas important, que ce n'était pas sérieux. La preuve, il y a eu des morts, etc. Et je pense que ce n'est pas fini. L'émulation négative, j'ai envie de dire, du mouvement raciste et du mouvement ce qu'on appelle les white supremacists, il est bien vivant et je crois qu'on va en entendre parler encore pendant un moment.
Merci beaucoup René Leck. Je rappelle que vous êtes dans le Maryland, dans les environs de Washington. Merci pour votre contribution dans l'Inde américaine, vous.
Je vous en prie, Eric. À bientôt.
Je rappelle à nos auditeurs que l'émission c'est l'Amérique et vous. Je suis avec Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Bonsoir, Monsieur Cohen.
Bonsoir, Monsieur.
Vous avez suivi le procès au Sénat, la mise en accusation de Donald Trump. Finalement, il a été acquitté. Est-ce que vous avez été surpris par le verdict final?
Non, pas du tout. Malgré le fait qu'il a perdu, il y a toujours beaucoup d'Américains qui sont solides en faveur de M. Trump. Donc, la plupart des Républicains ne veulent pas voter contre un homme qui est très populaire chez les Républicains.
Donc, le président Trump, pour vous, il reste un atout électoral incontournable?
Il reste un atout, mais avec le passage du temps, avec tout ce qui est révélé sur ce qu'il a fait, et aussi, il est en face des problèmes dans certains États. En Géorgie, par exemple, il est accusé d'avoir essayé de renverser le résultat de l'élection, qui est un crime dans l'État de Géorgie. Et dans l'État de New York, il y a le procureur qui cherche à accuser M. Trump de fraude fiscale. Donc, s'il est inculpé dans ces deux États, c'est inévitable qu'il va perdre la popularité. S'il veut être candidat à la présidence dans 4 ans, beaucoup de choses peuvent se passer entre aujourd'hui et 2024.
Comment vous voyez l'avenir du Parti républicain?
Oui, j'ai été frappé l'autre jour quand le chef des républicains dans le Sénat a fait un discours très méchant contre Trump. Donc, je vois que le Parti républicain est divisé en deux. Ça va évoluer avec le temps et à mon avis, Trump va perdre petit à petit sa puissance. Président Biden, il a une petite majorité au Sénat. Je crois que la division chez les républicains va l'aider à faire passer les lois qui sont importantes pour lui. Parce qu'il va toujours trouver des républicains qui vont voter du côté démocrate pour des différents projets. Donc la division chez les républicains est une bonne chose pour président Biden.
Est-ce que vous pensez que des républicains pourraient soutenir son projet sur l'immigration, par exemple?
Ce sera difficile parce qu'il y a beaucoup de républicains, surtout des gens qui soutiennent Trump, qui sont contre l'immigration. C'est un peu une politique raciste. Donc, l'immigration sera difficile. Mais ce qu'il veut faire dans le domaine budgétaire, il veut injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Je crois qu'il va réussir avec ça.
Il y a eu cette attaque contre le Capitole par des partisans de Trump. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui pourra être gérée et vidée définitivement ou c'est quelque chose qui va continuer à affecter les États-Unis?
Il y a certainement ce qu'on appelle le terrorisme intérieur maintenant. aux États-Unis. Et c'est plus important que le terrorisme extérieur. Mais déjà, ils ont déjà inculpé quelque chose comme 150 gens qui ont fait cette attaque. Et déjà, la plupart de ces gens qui sont inculpés disent « Nous avons suivi les ordres de Trump ». Donc, je crois que c'est terminé, ça. Quand même, il y aura des dangers dans certains États, par exemple, dans le Wisconsin, dans le Michigan, qu'il y a des éléments qui vont essayer de faire des choses. Mais à mon avis, ces gens-là sont en déclin, parce qu'ils sont visibles maintenant, et tout le monde les connaît.
À voir ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire que la démocratie américaine reste intacte? Y a-t-il des choses à revoir au niveau des lois, selon vous?
Non, je crois que la démocratie américaine reste intacte parce qu'il y avait l'attaque qui essayait de détruire la démocratie, mais ça n'a pas réussi. La démocratie américaine est très forte. Ça résiste à toute attaque. Et c'était un très bon exemple. Donc, je suis très optimiste pour la démocratie américaine.
Pour les Africains, par exemple, qui suivent ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme leçon aujourd'hui?
C'est qu'il faut toujours être attentif aux dangers. La démocratie est toujours en danger dans n'importe quelle société parce qu'il y a toujours des ennemis. Il y a toujours des gens qui veulent prendre le pouvoir et être dictateur, être autoritaire. Donc il faut toujours être vigilant pour protéger la démocratie.
Monsieur Cohen, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
Oh, je vous en prie. Merci. À bientôt.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
À New York, nous retrouvons Bakary Tandia. Bonsoir.
Bonsoir, Eric. Comment ça va?
Ça va très bien. Vous défendez les droits des immigrants. Vous avez suivi ce projet de loi du président Joe Biden sur l'immigration qui veut ouvrir la voie vers la citoyenneté américaine à près de 11 millions de personnes en situation irrégulière. La réforme va également profiter aux Dreamers, les 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance. Il y a aussi les personnes jouissant du statut de protection temporaire et les travailleurs agricoles qui peuvent prouver qu'ils sont employés aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour vous?
Absolument, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle très très encourageante. Bon, personnellement, je suis activement engagé dans la campagne pour la réforme de l'immigration depuis 2003. Donc, nous avons eu à mener beaucoup de campagnes, des grandes manifestations de 300 000 personnes ici à New York ou à Washington DC. Donc, nous n'avons jamais connu de répit. Donc, c'est très très encourageant pour ceux qui défendent les droits des immigrants et qui luttent pour une réforme de l'immigration. Quand on parle de réforme, on ne parle pas de n'importe quelle réforme. On parle de réforme qui a un caractère humain et qui est juste envers les personnes concernées.
Est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt des États-Unis de régulariser tout ce monde-là?
Absolument, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Quand on dit les États-Unis, par définition, c'est un pays d'immigrants. La preuve en est que l'actuel secrétaire au niveau de Homeland Security, c'est un immigrant. Vous avez également vu lors du procès de Trump au niveau du Sénat, l'un des house managers est un immigré de première génération, ses parents sont d'Érythrée. Et donc, si on enlève l'immigration des États-Unis, il ne reste rien. Donc, c'est l'immigration qui continuellement injecte du sang frais dans les veines des États-Unis pour continuer à exceller.
Économiquement, il y en a qui pensent que les États-Unis vont dépenser beaucoup pour ces immigrants. Quelle est votre réaction là-dessus?
Depuis 2005, on dit 11 millions. Certainement, maintenant, c'est même plus que ça. Ces personnes-là travaillent, continuent à contribuer, à faire vivre, à faire exceller et l'économie américaine. Et en plus, ils payent leurs taxes. Bon, contrairement à ceux qui sont en situation régulière, si tu es en situation régulière et que tu payes les taxes, en fin d'année, tu peux réclamer une partie de ces taxes qui vont te revenir en frapper à toi. Bon, alors que ces personnes qui sont dans la situation d'illégalité, qui ont un numéro au niveau de l'ARS pour payer les taxes, ils ne reçoivent rien en contrepartie. Et c'est ça la complexité, la beauté des États-Unis. Par exemple, si, comparativement aux autres pays, ce sera très très difficile de trouver un pays où les personnes en situation irrégulière sont autorisées et avoir un numéro d'identification à des fins de taxes. Donc les illégaux qui sont ici payent leur taxe fédérale. Et ici, par rapport au regard de l'immigration, par exemple, quand on parle d'une personne de bonne moralité, c'est la personne qui paye ses taxes.
Y a-t-il des actions envisagées pour convaincre certains élus républicains? Parce qu'apparemment, c'est un projet qui risque d'avoir des difficultés au niveau des élus républicains.
Absolument. Et il y a des membres du Congrès qui sont naturellement opposés à l'immigration, à toute forme de réforme. Bon, il va falloir lutter, informer, faire du plaidoyer, expliquer. Ça fait partie du processus, comme vous l'avez si bien dit. Bon, on sait qu'au niveau de la Chambre des représentants, il n'y aura pas de problème. Les démocrates ont la majorité et le vote, c'est à la majorité 5. Bon, alors qu'au niveau du Sénat, c'est 50-50. Donc, si un démocrate fait défection, ça va poser le problème. Et même si tous les démocrates vote et qu'il n'y a pas de soutien du côté des républicains, ça va être 50-50. Bon, c'est la vice-présidente des États-Unis dans ce cas, bon, qui va venir voter pour départager. Mais le problème est que contrairement à la Chambre des représentants, au niveau du Sénat, il y a un mécanisme particulier qui donne un certain levier à la minorité pour faire retarder ou bloquer le processus en question. Bon, ce qu'on appelle une filibuster. Donc, pour bloquer ce processus, il faut un vote de 60, la majorité qualifiée. Et les démocrates, ils n'ont pas ça, ils n'ont que 50. Pour pouvoir décrocher 10 sénateurs républicains pour atteindre ce chiffre magique de 60 sénateurs pour arrêter le filibuster, ça va être un grand défi.
Bakary Tandja, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup, Eric.
Nous sommes dans l'Amérique. Que vous, en ligne, le professeur Jean-Pierre Bonguila. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous êtes dans l'enseignement, vous avez suivi ce projet du président Biden qui veut ouvrir la voie à la nationalité, à certains irréguliers, mais aussi il y a les Dreamers qui vont en profiter. Est-ce que vous pensez que l'enseignement supérieur américain va aussi en profiter?
Les parents ont fui la guerre civile ou des atrocités dans leur pays, notamment des pays qui parlent l'espagnol. Vous avez le Mexique, Nicaragua et tous ces pays-là. Ces enfants se sont retrouvés ici sans leur propre accord. Ce sont leurs parents qui les ont amenés ici. Les parents pouvaient être illégaux en ce moment-là où ils étaient illégaux. Mais les enfants ont évolué dans les conditions américaines, ont étudié dans les écoles américaines et maintenant ils se retrouvent sans papier. Les administrations passées, notamment Obama, leur ont accordé un certain sursis permettant qu'ils restent aux États-Unis. Je pense que c'était d'abord pendant 2 ans. Pendant ce temps, la législation américaine cherchait des moyens, de voies et moyens, pour arriver à régulariser leur présence aux États-Unis. Obama n'a pas pu terminer ça, et voilà que le sursis que Obama leur a accordé avait expiré pendant que Trump était au pouvoir, et Trump n'a pas voulu renouveler ça. En fait, ces enfants-là avaient été sujets de déportation jusqu'à ce que la Cour suprême ait intervenu pour arrêter cela de justesse. Mais ce n'était pas une mesure définitive, ce qui fait que ces enfants sont toujours en balance, ne sachant quoi faire. D'abord, ils ne connaissent pas leur pays d'origine là. Ils n'y ont jamais été. Ils étaient là quand ils étaient enfants. Après, ils se sont retrouvés aux États-Unis. Ça va être très difficile pour eux de commencer quelque chose dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont étudié ici. Ce sera des valeurs importantes dans l'État américain. Maintenant, s'agissant de leur présence dans les universités, il y en a qui sont déjà dans les universités qui ont étudié ici. Il y en a qui ont reçu certaines bourses. pour étudier dans les universités américaines. C'est toujours un plus de les avoir, parce que c'est des gens qui ont, comme on dit, double conscience, double conscience, la conscience des pays d'où ils viennent, mais aussi ils ont évolué aux États-Unis, ils ont la conscience des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose de nouveau, quelque chose d'enrichissant dans les universités américaines. Mais le point négatif, c'est que, est-ce que ces enfants-là, foncièrement, pendant tout ce temps ici, on leur a rappelé qu'ils n'étaient pas américains, qu'ils étaient illégaux? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à embrasser la culture américaine comme il faut? Est-ce qu'ils vont réussir à se sentir vraiment du pays? Leur allégeance pourrait être vis-à-vis de leur pays d'où ils viennent, du pays de leurs parents, par rapport aux États-Unis. Ça serait quelque chose de négatif, me semble-t-il. Mais quant aux universités qui ne font que l'informer pour qu'ils soient des agents bénéfiques dans le système américain, pour les universités, c'est toujours un plus. Le plus embêtant, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui peuvent commencer, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour finir leurs études quand ils n'ont pas reçu certaines bourses. Parce que là, il y a ce que les universités américaines appellent le financial aid, ce sont des prêts pour que vous étudiez convenablement dans les pays, parce que les études coûtent excessivement cher ici. Donc, quand vous n'avez pas de documents légaux, les Dreamers là, ils n'ont pas droit à la bourse, parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont permanents, ils sont résidents permanents aux États-Unis ou ils sont citoyens, ce qu'ils n'ont pas. Mais c'est des enfants qui parfois se débrouillent, leurs parents se débrouillent pour arriver à leur pays, les frais académiques. Donc, il y a en plus, parce qu'ils apportent quelque chose en termes de culture, quelque chose de nouveau, mais il y a en moins parce qu'il y a des universités hésitantes, réticentes à pouvoir les avoir du moment qu'on n'est pas sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout s'ils n'arrivent pas à se payer les frais académiques.
En revenant sur l'impeachment et le procès au Sénat de Donald Trump, donc mis en accusation deux fois, il a été acquitté deux fois. Est-ce que ce système constitutionnel peut encore fonctionner selon vous?
Oui, le système a fonctionné et il va continuer à fonctionner. Quand un président ne fait pas son travail comme il faut, ou en fait il s'est érigé dans l'illégalité, comme Trump l'a fait, on l'a accusé d'avoir incité à l'insurrection, le système a fait son chemin. On se rappelle qu'en 1868, le tout premier qui a subi ça, c'était le président Andrew Johnson. Et puis nous avons Bill Clinton en 1998. Et bon, Nixon lui a démissionné avant même que le procès ne soit entamé. Et puis c'est Trump qui a été sous ce procès-là pendant deux reprises. Le système fait son cours. Il y a eu des résultats. Nixon, par exemple, est parti avant même qu'on arrive à la fin. Andrew Johnson avait été acquitté, comme Trump a été acquitté. Clinton avait été acquitté aussi. Mais le système fonctionne tel que le public, le peuple américain, se rend compte que de tous les méfaits qui ont été connus, parce que les gens suivent ce procès-là de près. Et d'une manière ou d'une autre, ça doit avoir aussi joué à l'échec aux élections de Trump. Les gens ont su à peu près qui il était. Ça doit avoir joué d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que le système mis en place par la Constitution américaine, il fait du chemin et il va continuer. Il y aura peut-être un jour où un président sera jugé coupable, mais ce n'est pas nécessairement le plus important. Le plus important, c'est que personne n'est au-dessus de la loi et la loi américaine juge même le président. Donc, même si le parti du président est majoritaire, mais quand le forfait est tellement criant, par exemple dans le cas de Trump ici, on a vu qu'il y a 7 républicains qui ont voté en faveur de sa condamnation. Mais dans le futur, ça dépendra du genre de crime, ça peut être plus que 7. Supposons que cette insurrection s'était passée pendant que Trump était encore au pouvoir, qu'il avait encore 1-2 mois et tout ça. Je pense qu'il y aurait plus de républicains qui auraient voté en faveur de sa démission. Il y en aurait plus. Ceux qui ont voté pour son acquittement se sont dit le procès est lui-même illégal. La Constitution ne dit pas qu'un président qui a quitté le pouvoir peut être jugé pour des sécessions. C'est l'exemple de Mitch McConnell, l'ancien président du Sénat, qui lui a voté pour l'acquittement. Mais après cela, il est revenu à la normale pour dire que ce que Trump avait fait est criminel et qu'en fait il a ouvert la porte aux poursuites judiciaires disant il va enquérir, il va encourir les poursuites judiciaires. Et c'est vrai que l'État comme la Géorgie là est en train de voir comment poursuivre Trump et même l'État de New York et Washington DC qui va être poursuivi d'une manière ou d'une autre.
Professeur Bondina, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
Je vous en prie.
Merci.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à nos interlocuteurs pour leur contribution. Lionel Lunagla Galima a facilité la mise en onde. Eric Lumanirakis a été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.